Quatrième acte. Chapitre 1. Le soleil chatouillait les cariatides de l'immeuble d'en face. Le presse-agrumes grognait, la bouilloire chantait, le four indiquait 7h42, et Michel Delpech, ou Fugain, ou Polnareff, ou Berger, ou Jonas, ou Sardou, ou au choix, bêlait de bon matin. Julie vérifiait la date de péremption d'un yaourt au lait de soja équitable et au pruneau bio, et Pauline s'inquiétait. « T'as vu Mathilde ?»« Non, elle était déjà partie quand je me suis levée. »« Encore ? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique si tôt ?» 2 juillet. « Il faut qu'on se dépêche. »« Pardon ? Les yaourts ? T'en veux un ? » ?»« Non, merci. »« Attends, mais on est en train de perdre plein de trucs, là. »« C'est à cause d'elle aussi. »« Elle mange plus rien. »« Mais pourquoi elle se lève si tôt en ce moment ? Elle a trouvé du boulot ?»« J'en sais rien. »« Et t'as vu les plans dans sa chambre ? Avec les petites épingles plantées partout et tout ?» Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fiche, enfin ? J'en sais rien. Elle veut déménager ? Julie l'ignorait, et Daniel Guichard répétait en boucle « Le gitan, 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 au secours. » Chapitre 2. Dans un rayon de 15 bonnes minutes à pied autour du café où ils s'étaient rencontrés, elle imaginait qu'il avait peut-être besoin de prendre l'air ou de se dégourdir les jambes entre deux services. Mathilde avait recensé 228 restaurants et brasseries. Et encore, elle avait rayé de sa liste les pizzerias, les crêperies, les salons de thé, les couscous et les restaurants indiens, afghans, tibétains, macrobiotiques et végétariens. Ces popotes-là, avait-elle décidé, n'exigeaient pas de si grands couteaux. 228. 228. 100 plus 100 plus 20 plus 8. Un peu d'organisation s'imposait. Elle avait photocopié en les agrandissant des bouts du 18e, du 16e et du 17e arrondissement et les avait punaisés au-dessus de son bureau avant de les couvrir de petites épingles rouges pour les arpenter de façon judicieuse. Napoléon n'aurait pas fait mieux. Elle avait commencé par passer des coups de fil, mais s'était vite rendue compte qu'elle ne vaincrait pas si aisément. Elle ne connaissait pas son nom, était incapable de le décrire, de dire son âge, de préciser depuis combien de temps il aurait travaillé là, et encore moins les raisons pour lesquelles elle le cherchait. Mais non, n'enquêtait pas pour l'inspection du travail, ni ne voulait réserver de table. Tombait sur des répondeurs nasillards, des maîtres d'hôtel débordés ou des patrons plongés dans leur compta, lesquels, tous autant qu'ils étaient, finissaient toujours par l'envoyer au diable. Bref, ça sentait sa retraite de Russie avant même d'avoir foulé les avenues de Wagram ou d'Iéna. Ce qu'il fallait, c'était passer à l'offensive. Attaquer. Marcher. Marcher sur lui. Se montrer. Sourire. Plaisanter. La jouer vieille copine qui passait par là. Petite sœur de province larguée dans le 7-5. Mère Michel qui aurait perdu son chat ou pure cagole évaporée, selon qui la recevait. Et puis, se lever tôt. Car on ne pouvait rien espérer de la salle. Des maîtres d'hôtel, des dresseurs de terrasse, des garçons fatigués avant même d'avoir enfilé leur gilet, des petits chefs de rang qui se la pétaient sous le brushing, tous ces gens qui ne sont pas les mêmes selon qu'ils sont en service ou pas, qui sont aimables quand ils ont vêtu leur habit de lumière et chassent le pourboire, et qui vous niaquent le mollet quand ils sont encore en survêt à passer l'aspirateur. Ce qu'il fallait, c'était se lever tôt et trouver la porte de derrière. L'entrée des artistes et des fournisseurs, celle qui est borgne, qui n'a l'air de rien, qu'une cale de fortune, une cagette, un pot de crème vide ou un énorme bidon d'huile, maintenait entr'ouverte, et par laquelle des Pakistanais, des Sri Lankais, des Congolais, des Ivoiriens, des Philippins et autres citoyens de l'United Colors of Life de merde sortaient en poussant devant eux des giclées d'eau savonneuses et où l'on apercevait aussi, de temps en temps, des zombies aux joues plus rondes et à la peau plus claire. Cela se frottait le visage, était assez riche pour se payer des cigarettes déjà roulées et, un pied contre le mur, fumait seul ou à plusieurs, et de plus en plus silencieusement à mesure que la journée avançait. Frais comme des gardons à la pause de 8 heures, plus calme à celle de 10, bien cuit à celle de 15, et paradoxalement, complètement ressuscité à l'heure de la fermeture, où là, de nouveau, ça jactait. Au lieu de rentrer enfin chez soi, ça causait, ça riait et ça rembobinait le service, en s'envoyant des vannes, histoire de les ouvrir, justement, et de laisser au stress le temps de se diluer dans la nuit. En quelques jours de quête à présent plutôt que de conquête, elle ne faisait déjà plus sa maline, Mathilde avait appris tout cela. Tout un monde. Elle avait aussi compris qu'un prénom seul ne la mènerait pas loin, que la plupart de ces zigotos ne se connaissaient que par leur patronyme, et qu'à chaque fois qu'elle demandait un Jean-Baptiste, on la regardait, désolée, comme si elle réclamait son doudou au monsieur pas commode qui venait justement de fermer les grilles de l'école. Jean-Bas, à la rigueur, mais Jean-Baptiste, non. C'était trop long. Quand elle tombait sur un plongeur et qu'elle pressentait que son anglais, son bengali, son singalais, son tamoul, ou son « elle ne savait même pas quoi » ne serait pas à la hauteur de son interlocuteur, elle indiquait les cuisines, puis montrait sa main gauche en repliant les deux premières phalanges de quelques doigts au hasard, elle ne se souvenait plus lequel exactement lui manquait, mimait une sorte de gros ventre avec son autre main et quelquefois même aussi un épi sur le haut de son crâne. Ceux, les rares qui ne la prenaient pas pour une barjot, secouaient le menton en écartant les bras. Elle les entendait chuchoter entre eux ensuite, tandis qu'elle s'éloignait. « Avaluku inate vai patudu. » Qu'est-ce qu'elle voulait ?« Nan, seria kandupi dikalai aval Spiderman par kirala aladu Elvis Presley par kirala Andrew. » Ben, j'ai pas trop compris si elle cherchait Spiderman ou Elvis Presley. « Anal ninga ina persuringal ?»« Ina solringa, ungaluku nampuri yalla, ungalama alliance française bondeche reyalla velaisa dargal enru ninaiten. » Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, encore ? Tu veux dire que t'as rien pigé, oui ? Je croyais que ta mère avait travaillé à l'Alliance française de Pondichéry. Nan, Apojudo, Orochina Kunjandai. Oh, ça va, j'étais petit. Hein. Une paire de fois, on lui avait annoncé un Jean-Baptiste qui n'était pas le sien. Et un autre matin, on lui présenta des mains raccourcies, en effet. Seulement, ce n'étaient pas les siennes non plus. Les nouvelles allaient vite sur Radio Casserole. Et au bout d'une dizaine de jours, il n'était pas rare qu'on l'accueillît ainsi. Ne dites rien. C'est vous qui cherchez un cuistot manchot, c'est ça ? Eh non, il n'est pas ici. Elle était devenue une sorte d'attraction, la pause kit-kat de la matinée. La folle à vélo qui rayait des trucs sur son carnet et vous taxait ou bien vous offrait une clope au passage. Au bout du compte, elle s'amusait. Elle aimait bien ces jeunes gens toujours pressés et pas vraiment causants, mais vaillants. Toujours vaillants. Les plus jeunes surtout la fascinaient. Se rendait-il compte du fossé qui se creusait, là, à ce moment précis de leur vie, entre eux et leurs camarades du civil ? Elle programmait son réveil à 5 heures, se douchait en réglant le jet au minimum, pour ne pas déranger les filles, glissait ses plans dans sa besace et cueillait Paris à l'aube, en plein solstice d'été. Le Paris rose et ensommeillé des livreurs, des monteurs de marché et des artisans boulangers. Elle redécouvrait des vues, des boulevards et des avenues qu'elle avait eu jusque-là l'habitude d'emprunter à cette même heure, mais décalquées et en pilotage automatique, zigzagant, clopinant, s'appuyant ou se retenant de justesse au poignet de son guidon qui lui servait alors de balancier. Elle admirait les étirements brumeux, la langueur canaille, l'indolence mi-close et déjà aguichante d'une ville que ses pauvres petits yeux explosés par la fatigue, l'alcool et la myxomatose des mélancoliques anonymes ne voyait plus depuis longtemps, et qui demeurait, on avait beau dire, ils avaient beau faire, belle comme le jour. Comme tout cela était pittoresque. Elle se sentait touriste, flâneuse, en excursion dans sa propre vie. Elle fendait la bise, jouait avec les chauffeurs d'autobus, slalomait entre ses lourdeaux de Vélib, suivait le baron Haussmann à la trace, laissait derrière elle le popu, ce qu'il en restait, de la place de Clichy, longeait des immeubles de plus en plus cossus, saluait la jolie rotonde du parc Monceau, se demandait chaque matin qui habitait là, dans ces hôtels particuliers de folie, et si ces demi-dieux se rendaient compte de la chance qu'ils avaient, prenait son petit déjeuner dans différents troquets, voyait les prix grimper à mesure que les numéros d'arrondissement diminuaient, regardait les gens, feuilletait le Parisien, tournait le dos aux écrans de télévision, écoutait les discussions de comptoir, s'initiait aux pronostics hableurs, vains, sonnants et ou trébuchants du tiercé et des ligues de foot, s'en mêlait quand le cœur y était, et pédalait ferme pour rattraper son retard. Avait la chair de poule dans les descentes et des bouffées d'ardeur dans les côtes. Y croyait dur comme fer. Elle s'était improvisé une destinée, jouait avec sa solitude, se faisait tout un cinéma, se prenait pour la Mathilde d'un long dimanche de fiançailles, cherchait un garçon pas beau du tout qui voulait la faire arranger, il le lui avait murmuré à l'oreille une nuit passée, et, même si elle ne le trouvait pas, même si tout cela n'était qu'une couillonnade de plus au pays des oui-oui de la vie, ce n'était pas grave. Ce ne serait pas grave. Il lui avait déjà offert ce cadeau magnifique de se savoir debout, décidée, matinale et vivante. Et déjà c'était beaucoup. Pendant tout le temps que durerait cette bolée de petits matins frais, le monde, du moins le monde, lui aurait appartenu.